Merci de passer la soirée avec nous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit pour commenter notamment cette image, image de la soirée, Vladimir Poutine en treillis auprès des troupes russes qui combattent à Koursk. Koursk, c'est une poche du territoire russe qui est contrôlée en fait depuis un an par l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens pensaient pouvoir s'en servir en monnaie d'échange, mais voilà, les Russes ont lancé une puissante contre-offensive et Poutine dit ce soir qu'il faut reprendre la totalité de cette zone au moment même où les États-Unis demandent à la Russie de répondre à leur proposition de trêve de 30 jours.
Notre objectif est de détruire définitivement l'ennemi dans les délais les plus courts. L'ennemi qui a occupé le territoire de la région de Koursk et qui continue à mener des combats ici. Il faut libérer complètement la région de Koursk et rétablir la situation le long de la frontière de l'État. Bien sûr, il faut penser à l'avenir d'une zone de sécurité le long de la frontière.
Elsa, je vous demandais, c'est quand la dernière fois qu'on a vu Vladimir Poutine se mettre en scène en tenue militaire comme ça ?
En tenue militaire complète, ça remonte à 2004 sur un cosmodrome et on l'a vu passer une doudoune camouflage en 2022 parce qu'il pleuvait lors d'une visite dans un centre de commandement, mais il n'a jamais été comme ça depuis 20 ans.
Depuis 20 ans, donc l'image, elle est forte, elle est symbolique. Quel message, général Olivier de Bavinkov, selon vous, a voulu envoyer Vladimir Poutine avec ses vidéos ?
C'est incontestablement un message de fermeté et d'engagement dans cette opération qui vise à libérer, si l'on peut dire, le territoire russe qui est encore occupé sur quelques dizaines de kilomètres carrés par les forces ukrainiennes résiduelles de la région de Koursk. Mais au-delà de ça, c'est aussi la fin d'un narratif, qui est le narratif de ces 3 ans d'une opération spéciale qui avait été déclenchée, qui n'était pas la guerre, puisque les termes qui avaient été employés, qui ont toujours été employés par le régime de Poutine, ont été les termes d'une opération militaire spéciale, qui n'était donc pas la guerre comme nous l'avons, nous tous, tous les pays du monde interprétés de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, son voisin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la toute fin des opérations, puisqu'on sent bien qu'on rentre dans cette phase très compliquée des négociations, où d'ailleurs, très probablement, les revendications du Kremlin vont être extrêmement nombreuses et très diverses. À la toute fin de ce conflit, eh bien là, il se met en scène, et il se met en scène en chef de guerre, puisqu'il porte le treillis qui est l'uniforme commun des soldats qui sont sur le terrain. Et c'est assez étonnant, pour revenir à ce que disait à l'instant Elsa, c'était il y a 20 ans, sur le cosmodrome, lorsqu'il avait porté la tenue. Mais surtout, dans cette opération militaire spéciale, on a très très peu vu le chef de guerre sur le terrain. On l'a très peu vu au milieu de ses hommes. On l'a très peu vu dans les postes de commandement. On l'a toujours vu, surtout dans des postures à l'arrière, au Kremlin, totalement différents de ce point de vue-là, de la posture qu'a d'emblée adopté le président Zelensky.
Il se met en scène, Ulysse, au moment où je disais Washington et Kiev se sont mis d'accord sur cet accord de trêve, et au moment même, dans cette région de Koursk, où on est en train de vivre un instant décisif, puisque, je le disais, il y a une contre-offensive puissante de l'armée russe, avec d'importants gains territoriaux ces derniers jours. Et ce soir, l'armée ukrainienne annonce qu'elle se replie dans cette région, et l'Ukraine voulait précisément se servir de cette région comme monnaie d'échange. Ce sont des nouvelles qui sont difficiles pour les Ukrainiens.
Alors d'abord, il faut entendre ce qu'a dit Poutine sur le front. Il a ordonné de libérer tout le territoire occupé par les Ukrainiens depuis le mois d'août. Donc c'est un ordre du chef des armées, du patron de la guerre, même s'il appelle ça une opération spéciale, qui dit à ses soldats, il faut reprendre ce territoire qui a été occupé. Et il faut le reprendre, il ne dit pas aux Ukrainiens, il dit des mains des terroristes. Et c'est comme ça qu'il qualifie les soldats ukrainiens qui sont sur place.
430 soldats ukrainiens qui ont été faits prisonniers. Et il dit effectivement ce soir, il faut les considérer comme des terroristes.
Oui, c'est un terme très important parce que ça veut dire qu'ils n'appliquent pas les conventions de Genève, ils ne sont pas prisonniers de guerre. Ils sont terroristes, entre guillemets. Donc ils peuvent être jugés, condamnés, exécutés. Donc ça, c'est le message ce soir qui est très, très dur et très fort. L'autre chose, c'est que, en fait, Poutine est dans une situation assez compliquée. Parce que d'un côté, il ne veut pas cesser le feu, clairement, il l'a dit, il veut continuer la guerre, et en tout cas au moins jusqu'à la libération, entre guillemets, des terres russes occupées. Donc ça, c'est l'ordre militaire, c'est à mon avis ce qui est le plus déterminant, mais en même temps, il ne veut pas perdre cette qualité de partenaire d'un dialogue avec Trump. Et c'est ce qu'il a gagné de plus important depuis le début du mandat de Trump à la Maison-Blanche, c'est qu'il parle en face à face avec avec Trump. Ce n'est plus le paria que l'on a connu. Donc il veut rester l'interlocuteur, il veut pouvoir dialoguer et avoir ce statut à l'échelle du monde. Et en même temps, il y a une situation militaire à régler. Donc ce soir, il est un peu coincé, je dirais. On va voir comment les choses se passent sur le front, si effectivement les Ukrainiens quittent Koursk et rentrent chez eux, ça sera plus facile. Parce que alors là, effectivement, ils pourraient aller vers un cessez-le-feu. Mais tant que ça ne sera pas réglé, mon sentiment est qu'il va durcir sa position et il ne lâchera rien. Même si, quand même, les émissaires américains arrivent à Moscou et ils sont prêts à dévoiler finalement le plan qui a été mis au point en Arabie Saoudite avec les Ukrainiens.
Et on ira dans un instant à Kiev retrouver Igor Seri, notre envoyé spécial, pour voir justement comment sont perçues ces images et ce repli aussi de l'armée ukrainienne. Claude Blanche-Maison, Ulysse le disait, le Kremlin est face à un dilemme, soit accepter une trêve et renoncer à des gains territoriaux, ou soit rejeter cette offre et risquer de compromettre ce rapprochement avec les États-Unis. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer là ce soir, les ordres qui sont donnés par Vladimir Poutine à ses soldats, on se demande bien pourquoi le président russe accepterait maintenant une trêve alors qu'il est justement en train de reconquérir cette région de Koursk.
Alors, cette image de Poutine en treillis dans la région de Koursk, c'est une réplique militaire à ce qui a été à Jeddah une victoire diplomatique des Ukrainiens. Parce que Jeddah, moi c'est comme ça que je l'analyse en tout cas, les Ukrainiens ont obtenu à Jeddah le rétablissement de l'aide américaine immédiatement, le soir même, le rétablissement du partage du renseignement américain le soir même, et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné tout simplement un assentiment à une trêve de 30 jours, éventuellement renouvelable, sans aucune condition. Toutes les conditions qu'ils mettaient à cette trêve auparavant, eh bien, elles sont un peu en annexe. On dit qu'on en parlera pendant la trêve et après. Donc, je crois que, en effet, ce qui s'est passé à Jeddah embarrasse considérablement, comme l'a dit Ulysse.
Donc, vous y voyez ce soir une réponse à Donald Trump?
Oui, mais c'est une réponse militaire, effectivement, parce qu'il faut se débarrasser de cette occupation par les Ukrainiens qualifiés de terroristes d'une petite partie du territoire russe. C'est d'ailleurs curieux que Poutine l'ait pas fait plus tôt. Parce que tout un tas de moyens ont été essayés, y compris faire venir des Coréens du Nord, sans succès. Donc cette action d'éclat de l'armée ukrainienne, finalement, les Ukrainiens ont réussi à tenir pendant 8 mois, presque un an en fait, et sans que la Russie parviennent à les mettre dehors.
Donc là, maintenant. Et là, ce soir, ce qui était intéressant, c'est que dans son intervention télévisée, Poutine a énuméré toutes les forces qui sont engagées dans le combat. Et il y en avait à peu près une dizaine d'unités, des forces spéciales, des commandos marines. Enfin, c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit qu'il met le paquet sur le plan militaire, avant de passer à autre chose.
Mais alors, justement, c'est quoi le autre chose? Est-ce que c'est cette fameuse trêve? Et est-ce que c'est pour ça qu'il met le paquet maintenant? Parce qu'il se dit qu'il pourrait accepter une trêve, mais peut-être pas tout de suite, mais dans quelques jours, à partir du moment où il aura récupéré cette région de course. Qu'est-ce qu'on peut l'interpréter de la sorte?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, là, il veut absolument reprendre le territoire. La question, c'est est-ce qu'il pourra le faire rapidement? Les Américains, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, en rentrant aux États-Unis, a eu cette phrase « Si la Russie accepte le cessez-le-feu, il pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent ». Ça paraît être totalement optimiste. Mais si Poutine obtient cette victoire sur le front à Koursk et qu'il regagne finalement la totalité de ses frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le Donbass à discuter, si j'ose dire, pour résumer, eh bien, à ce moment-là, il pourra, non pas passer à autre chose, mais passer au vif du sujet, c'est-à-dire ce que veut Trump, c'est-à-dire un accord avec Trump sur l'Ukraine.
Justement, sur le plan militaire, je regardais les chiffres, enfin en tout cas, c'est le chef d'état-major Gerasimov qui donnait ces chiffres au cours des 5 derniers jours, 24 localités, 259 km² du territoire de la région de Koursk ont été repris selon lui. Est-ce que dans les prochains jours, c'est une question de jours avant que cette région ne soit reprise intégralement par l'armée russe? Ça peut aller aussi vite?
Je pense que ça peut être une question de cette nuit. Oui, je pense que ça peut être une question de cette nuit. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles, je dirais les raisons politiques et les raisons diplomatiques, dans cette période où les Ukrainiens ont accepté l'idée du cessez-le-feu, ils ont accepté de confier d'une certaine façon à l'émissaire américain qui va se rendre à Moscou de lancer les conditions de la négociation avec les Russes, je ne vois pas les raisons pour lesquelles ils s'accrocheraient face à une situation qui est désespérée. Ils ne veulent pas perdre leurs unités, ils ont besoin de ces unités qui, pour certaines, sont des unités d'élite. Et il me semble que l'attaque russe va probablement se porter dans le vide. C'est-à-dire qu'il va y avoir un retrait extrêmement brutal et un désengagement des unités ukrainiennes qui vont rebasculer de l'autre côté de la frontière.
Avant de vous donner la parole, Elsa, justement, nous allons prendre la direction de l'Ukraine, Kiev, où l'on vous retrouve. Igor Seheri, bonsoir. Comment cette avancée militaire russe dans la région de Koursk, ce repli de l'armée ukrainienne est perçu, ainsi que ces images de Poutine entrailli sur le front auprès de ses combattants?
Écoutez, les premières réactions, c'était d'abord un sourire quelque part de cette mise en scène. Voilà, les mots employés par les Ukrainiens que nous avons rencontrés avec Marjorie Marciac tout à l'heure, c'est la mise en scène, c'est la propagande dans son discours, dans sa tenue vestimentaire. Tout cela apparaît d'abord comme une grosse entreprise de communication, comme Vladimir Poutine a l'habitude de le faire régulièrement depuis le 24 février 2022. L'autre réaction, et que à laquelle j'ai pas pensé au départ, c'est peut-être l'authenticité de cette vidéo. Certains Ukrainiens m'ont dit, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que cette vidéo a été tournée à Koursk? Est-ce qu'on est sûr qu'elle a été tournée tout à l'heure? Est-ce que quelque part, finalement, ce n'est pas encore un mensonge, une tricherie de Vladimir Poutine? Et puis la troisième réaction, qui est peut-être celle à laquelle on pourrait s'attendre le plus, c'est que, eh bien, d'être en tenue vestimentaire militaire, d'avoir un discours pour les soldats ukrainiens kidnappés ou en tout cas prise en otage par les Ukrainiens, les Russes considérés comme des terroristes, quelque part, cela signifie une chose, c'est que Vladimir Poutine est très très loin d'une envie, d'une volonté de cesser le feu et encore moins d'une paix durable.
Merci Igor Seheri avec Marjorie Marciac. Sur ces doutes, Elsa, il y a des raisons de douter sur le fait que ces images aient bien été tournées aujourd'hui?
Oui, parce qu'en fait,
il y a... Images diffusées, je le rappelle, par les agences russes.
Absolument, diffusées notamment par l'agence TASS. Oui, parce qu'il y a une pratique dans la communication politique du Kremlin qui consiste à faire ce qu'on appelle des conserves, c'est-à-dire à tourner des segments vidéo ou radio, mais plutôt vidéo aujourd'hui pour la télévision, qui sont sortis au moment qui correspond aux besoins du Kremlin. Et Paul Gauguin en parlait tout à l'heure en plateau, il a eu, lui, une expérience extrêmement directe de cela dans le Donbass. En fait, une visite de Vladimir Poutine dans la région de Donetsk avait eu lieu un mois avant qu'elle soit diffusée. Il a rencontré un des hommes qui est d'ailleurs sur la vidéo et qui lui a dit oui, c'était effectivement ici, mais c'était il y a un mois. Et là, aujourd'hui, sur les réseaux russes, j'en regardais tout à l'heure, ce qui se discute notamment, c'est le fait que la bande-son de cette vidéo est mal synchronisée, qu'elle est en léger décalage avec la vidéo justement, et que la voix de Vladimir Poutine est beaucoup plus haute que d'habitude. Donc voilà, il y a des traces, disons, de manipulation. En revanche, ça ne change rien
au message,
à la portée du message et à sa finalité. Que ce soit un vrai faux, ça n'a pas d'impact sur ce à quoi cela sert.
Et la finalité du message, à qui il s'adresse Vladimir Poutine avec ces images? Est-ce qu'il s'adresse aux Ukrainiens? Est-ce qu'il s'adresse aux Américains? À Donald Trump, comme vous le disiez, Claude Blanche-Maison? Ou est-ce qu'il s'adresse aussi aux Russes? J'écoutais l'ancien diplomate russe, Vladimir Fedorovski, qui disait qu'il y a une pression de l'armée russe pour continuer la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est aussi à ces soldats-là qu'il s'adresse ce soir avec ces images?
Je me méfie toujours de ce genre d'approche. Vladimir Fedorovski a des analyses souvent intéressantes. Mais là, pour le coup, je n'aurais spontanément pas pensé à cela. Moi, il me semble que le message de Poutine est un message adressé aux Américains. Il n'a pas beaucoup de cartes en main. Les mots qu'a employé Marco Rubio hier et le conseiller national à la sécurité en Arabie Saoudite étaient des mots assez cinglants. La balle est désormais dans le camp russe. La balle est désormais dans le camp russe. Et au fond, lorsqu'on regarde objectivement les choses aujourd'hui, quels sont les atouts dont dispose le Kremlin pour entamer cette négociation? C'est-à-dire, quels sont véritablement les atouts? Et lorsqu'on regarde ce qui vient de se produire, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont de nouveau accès aux yeux et aux oreilles des Américains, ils ont de nouveau accès à la livraison des capacités dont ils ont absolument besoin pour tenir, et ils tiennent depuis très longtemps, face aux Russes. Quels sont les atouts? Et j'imagine que le président Poutine est à la recherche de la fin de cette période d'ostracisme et de paria que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir d'une photo à côté du président Trump. Quel est le prix de cette photo à côté du président Trump un jour? Et quel prix doit-il payer pour cela? Je ne sais pas. Quel prix veut-il payer? C'est quel prix doit-il payer pour obtenir une photo à côté du président Trump?
Vous évoquiez il y a un instant les propos de Washington, la balle est dans le camp de la Russie, et Donald Trump est même allé plus loin. Aujourd'hui, on va l'écouter, il n'hésitera pas à mettre la pression sur Vladimir Poutine pour qu'il accepte cette trêve.
J'espère que cela ne sera pas nécessaire, mais bien sûr qu'on peut faire pression sur la Russie. Oui, bien sûr, on pourrait faire des choses qui ne seraient pas très plaisantes, choses sur le plan économique, financier, je ne veux pas le faire, bien sûr, car moi, ce que je veux, c'est la paix. Mais dans un sens économique, bien sûr qu'on pourrait faire des choses qui seraient dévastatrices pour la Russie, mais je ne veux pas aller sur ce chemin-là. Nous voulons la paix et on est proche de quelque chose